Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, tu penses à ton argent, tu penses à ton compte en banque. Mais en réalité, ton patrimoine, il est beaucoup plus large.
Donc c'est ce qu'on disait, c'est un nouveau troc qui est beaucoup plus sophistiqué que l'ancien troc.
Et voilà, on pourra justement aller boire un coup, peut-être dans quelques années, et payer avec voilà ton appart ou mon piano.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 29 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand j'étais petit et que j'allais à la boulangerie pour acheter des bonbons, ça ressemblait à peu près à ça.
Et voilà, ça fera 10 francs, s'il te plaît.
Alors depuis, les pièces sont devenues des euros et pour 10 francs, on a beaucoup moins de bonbons qu'à l'époque, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que bientôt, à la boulangerie, on pourrait entendre ça. Et c'est tout, plus de pièces. Alors vous me direz, c'est déjà le cas quand on paye par carte bancaire aujourd'hui. Sauf que là, ce que vous avez entendu, c'est pas un bruit de carte bleue avec un prélèvement classique sur un compte en banque. Ces bonbons, les enfants les paieront avec un millième de canapé ou une fraction de l'appartement de leurs parents. Alors moi aussi, j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais restez bien avec nous. Je vous assure que l'explication vaut le détour. Vous le savez, cette semaine dans La Loupe, on vous propose 5 épisodes sur les idées folles qui révolutionneront le monde de demain. Aujourd'hui, la blockchain et le troc du futur. Alors, une fois n'est pas coutume, il est déjà en studio. J'accueille Raphaël Bloch. Salut Raphaël.
Salut Xavier.
Tu es journaliste au service économie de l'Express et tu écris sur les banques, les monnaies et les crypto-monnaies. Bref, tu connais bien nos manières de payer. Toi, tu as acheté des bonbons avec quoi?
Bah, moi, je les ai achetés un peu comme tout le monde avec des francs quand j'étais petit.
D'accord, donc à peu près de la même génération.
Ouais, à peu près, ouais.
Avant de parler du troc du futur, on va rapidement évoquer l'ancien troc. Depuis quand on utilise des monnaies, Raphaël?
Quand on a commencé à vraiment développer nos économies, il a fallu qu'on aille au-delà du troc. C'est-à-dire que ça fonctionnait très bien tant que voilà, moi j'avais quelques bananes, je te les échangeais contre quelques oranges, ça allait bien. Quand on a commencé à complexifier notre économie, il a fallu finalement trouver une manière plus efficace en fait, d'échanger entre nous des marchandises. Et donc, on a introduit la monnaie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt récent à l'échelle de l'humanité. Nous, en France, la première monnaie connue, c'est l'écu. Après, on a eu le franc. Après, on est revenu à l'écu.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
Il en manque une.
Mais voilà, globalement, on a en fait eu des monnaies dans l'histoire, mais après, c'est vrai que c'est compliqué de savoir précisément quand est-ce qu'elles sont nées un peu partout sur la planète.
Raphaël, il y a un exemple très parlant, tu m'en as parlé en préparant cet épisode, c'est le dollar aux États-Unis.
Ça fait un peu plus de 2 siècles qu'il existe. En fait, il a été créé à la naissance des États-Unis. Enfin, c'était une manière pour les pères fondateurs, finalement, d'instituer les États-Unis d'Amérique. Mais c'est vrai qu'il a mis du temps à s'imposer parce que, en fait, il n'y avait pas de banque centrale qui permettait de centraliser le dollar. Et donc, il y a eu, parallèlement au dollar, pas mal de petites, monnaies émises par des entreprises qui avaient besoin localement d'avoir leur monnaie pour payer les salaires.
C'est-à-dire que leurs salariés étaient payés avec leur monnaie à eux?
Ah ouais. Et après, ils allaient, en fait, dans les banques se faire payer en dollars en donnant l'espèce de billet qui avait été fourni par leur employeur.
Comme si vous travailliez dans un supermarché et que, disons, Monoprix ou Carrefour et que votre salaire, c'est un chèque Carrefour et qu'après, vous allez changer.
Exactement. Puis tout a changé au début du XXe siècle, en 1913, quand est née la Fed, donc la banque centrale américaine, qui a commencé à gérer le dollar sur tout le territoire américain.
Ouais, 1913, donc c'est assez récent.
Ouais, c'est très récent. C'est-à-dire que la monnaie telle que toi et moi on l'a connue en fait quand on était petit et telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est une création relativement récente.
4 millions d'euros.
Alors une fortune de plus de 100 milliards de dollars.
Un yuan moins cher.
Ces Indiens viennent échanger leurs billets de 500 et 1000 roupies.
Forte volatilité de la livre sterling ce jeudi.
Donc on est passé du troc à la monnaie physique. Là, on est en train de passer à la monnaie numérique. C'est quoi l'étape d'après ?
Bah justement, l'étape d'après, c'est potentiellement, grâce à la technologie, en fait, le retour à une forme de troc numérique sur le modèle de ce qu'on a connu il y a quelques millénaires.
Donc il y a eu un avant-monnaie, il y aura un après-monnaie, un après dans lequel on devrait pouvoir payer à nouveau avec à peu près n'importe quoi. Ce ne sera pas des oranges et des bananes. Et vous allez l'entendre, ce sera plus sophistiqué que le bon vieux troc. Le mieux pour qu'on comprenne bien, Raphaël, c'est qu'on imagine comment moi, je pourrais payer dans le futur, comment par exemple, je pourrais, comme presque tous les jours évidemment, inviter l'équipe de La Loupe au restaurant.
Bah, c'est simple, Xavier, t'as de l'argent.
Oui, j'ai de l'argent sur mon compte.
Combien j'ai sur mon compte déjà ?
248 596 euros.
Faut que je fasse des économies.
Vous faites déjà des économies ?
Mais qu'est-ce que tu fais de tout le reste de ton patrimoine ? C'est-à-dire que t'as effectivement de l'argent sur ton compte, mais j'imagine que t'as d'autres choses. Je sais que t'as un appartement, t'as peut-être une voiture, t'as des meubles. Tout ça, t'en fais quoi ?
Bon, j'ai pas de voiture, j'ai un vélo, mais je peux pas payer avec ça.
Alors aujourd'hui, effectivement, tu ne peux pas inviter l'équipe de La Loupe en payant avec une partie de ton appartement. Peut-être que dans les années qui viennent, tu vas pouvoir le faire. En fait, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu penses à ton argent, tu penses à ton compte en banque. Mais en réalité, ton patrimoine, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire que il y a ton appartement, ton vélo. Et en fait, quand tu mets tout ça ensemble, ça représente une somme supérieure à ce qu'il y a sur ton compte en banque. Et la technologie, en fait, permet de transformer en argent tout ce patrimoine que tu pourrais justement dépenser en allant au restaurant, peut-être en allant au cinéma, peut-être pour payer un billet d'avion.
D'accord, je peux payer avec mon appartement, mais enfin, à moins que j'invite l'équipe de La Loupe dans un restaurant incroyablement étoilé, je pense qu'un repas vaut moins que mon appartement.
Ah non, mais je te rassure, Xavier, tu ne devras pas céder ton appartement parce que tout simplement, il sera fractionné. C'est-à-dire qu'on pourra fractionner ton appartement en 1 million de petites pièces et en fait, tu pourras payer avec une partie de ces pièces pour justement aller au restaurant.
Donc des pièces numériques, si je te suis bien, ça provoque une foule de questions qui me viennent pour savoir comment tout ça peut fonctionner. Alors on va les prendre dans l'ordre. D'abord, comment on sait quelle proportion de mon appartement correspond à une addition pour 5 au restaurant ?
C'est effectivement la question qu'on peut en fait résoudre avec une technologie, la fameuse blockchain, alors qu'on connaît pour les crypto-monnaies, mais qui ne permet pas seulement de faire ça. Et en fait, ce que tu vas faire, bah, c'est tout bêtement enregistrer toutes les caractéristiques de ton appartement, de ton vélo sur la blockchain. Et à partir du moment où tout le monde fait ça, eh bien, en réalité, tu crées un réseau dans lequel automatiquement les valeurs vont s'ajuster en fonction du prix qui a été enregistré et de ce que toi, tu as dépensé en allant au restaurant ou au cinéma.
Juste rappel, est-ce que tu peux nous rappeler précisément ce que c'est que la blockchain ?
Alors, la blockchain, c'est un système informatique qui est à la fois ouvert à tous et hyper sécurisé. Alors, ça peut paraître évidemment paradoxal, mais en fait, il a un fonctionnement assez simple. C'est que il y a pas mal d'ordinateurs un peu partout qui sont tous reliés entre eux et qui vont en fait simultanément sécuriser le système informatique que justement on va utiliser pour enregistrer les caractéristiques de ton appartement, de mon vélo, de ma raquette de tennis pour pouvoir enregistrer leur valeur et potentiellement utiliser une des fractions de ces objets.
D'accord, donc tout ce que je possède, argent, appartement, etc., les biens, je les rentre dans la blockchain, ça me permet de le fractionner et de m'en servir pour payer. Donc en gros, là, je passe plus par une banque.
Bah, sur le papier, effectivement, ça pourrait te permettre de te passer totalement de la banque. Alors après, ça prend du temps. Les banques ont historiquement un rôle hyper important de sécurité, mais justement, parce qu'aujourd'hui, on a cette technologie qui te permet en fait, de sécuriser tes actifs et en plus de rentrer la valeur de tes actifs sur une blockchain, ça pose évidemment un énorme défi pour les banques.
Parce que la banque, c'était elle qui m'assurait que l'argent que je virais partait bien de mon compte et arrivait au compte du destinataire.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que là, avec la techno, on peut finalement, entre nous, faire des transactions. C'est-à-dire que je peux te virer de l'argent sans que une tierce personne, c'est-à-dire souvent une banque ou un organisme de paiement, n'interviennent pour dire très bien, Raphaël a bien viré 100 euros à Xavier ou vice-versa.
Et ça, le système de la blockchain permet de sécuriser et de garantir ces virements.
Exactement, c'est ce qui se passe avec le Bitcoin depuis 12 ans.
Il a bien déjeuné, le monsieur ?
J'en reviens à mon déjeuner. Alors, avec quoi je paye maintenant que j'ai tout rentré dans la blockchain? Physiquement, à la fin du repas, je fais quoi?
Bah, tu vas utiliser soit ton smartphone, ta carte bancaire, et potentiellement bientôt, tu pourras, via un portefeuille numérique ou justement un portefeuille numérique dans ton smartphone, peut-être payer avec une fraction de ton appartement, une fraction peut-être de ton t-shirt que tu auras numérisé.
Bon, je ne sais pas quel restaurant acceptera mon t-shirt comme paiement, mais le patron lui-même du restaurant, il a quel intérêt à posséder alors, soit ce t-shirt, soit une fraction infime de mon appartement?
Tout bêtement, il a intérêt à l'accepter parce que lui, il a envie de faire des transactions. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est de recevoir des clients et d'être payé. Finalement, l'important, c'est de savoir que ce que tu vas recevoir en paiement a de la valeur pour tous, que cette valeur est vérifiable, sécurisée. Et à partir de ce moment-là, finalement, il n'y a aucun problème pour accepter une fraction de ton appartement qu'il va pouvoir céder à un autre parce que la blockchain va finalement valider toutes ces transactions.
Donc, c'est ce qu'on disait, c'est un nouveau troc qui est beaucoup plus sophistiqué que l'ancien troc.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la technologie nous permet plus facilement d'échanger un bien contre un autre. Je prends par exemple la chaise qui est en face de moi. Si je veux l'échanger contre l'un de tes livres, il n'y a pas équivalence. Donc, je vais devoir malheureusement couper une partie de la chaise. Alors qu'aujourd'hui, si justement on numérise la chaise, je n'ai pas besoin de lui couper un pied. Et je vais juste en fait te transférer une petite partie de cette chaise pour récupérer ton livre.
D'accord, j'ai mieux compris, mais mon livre ou mon appartement ou mon vélo, une fois que j'ai échangé plein de fractions de ces objets-là, est-ce qu'il y a un moment où je les perds?
Non, en fait, t'en gardes l'usage tant que tu n'as pas cédé l'intégralité de ton bien. Après, rien ne t'empêche potentiellement de le céder quand il t'en reste 30%. Mais en fait, le plus important finalement pour toi, c'est d'avoir l'usage de ton appartement, c'est d'avoir l'usage de ton vélo. Et en fait, ce que la technologie là nous permet de faire, c'est de dépenser ces biens dans l'économie, tout en gardant la propriété jusqu'à ce qu'on en ait cédé la propriété intégrale.
Bon, même si, grâce à toi, Raphaël, on comprend désormais mieux comment je vais payer ou nous allons payer avec un millième d'appartement ou de livres ou un centième de micro de la loupe, tiens, c'est vrai que ça reste difficile à concevoir et pourtant, ça pourrait arriver très vite. En t'écoutant, Raphaël, je me pose une question et je suis sûr que nos auditeurs se la posent aussi. Le système que tu nous décris, il est pour quand?
Alors, j'ai pas de boule de cristal. Je suis désolé, je pourrais pas te dire précisément quand est-ce que tu pourras inviter l'équipe de la Loupe et payer avec ton appartement. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement est en marche. Ça pourrait prendre peut-être quelques décennies. On peut se dire 2050 si on a envie d'avoir une date en tête. Là, il y a pas mal d'actifs qui commencent à être numérisés sur la blockchain. On parle de cartes de jeu. Il y a des œuvres d'art qui sont numérisées. On a également des titres de propriété, des actions en bourse. Donc, il se passe pas mal de choses. Peut-être bientôt, on aura effectivement des appartements qui sont numérisés avec pas mal de fractions sur la blockchain. C'est juste une question d'années, de décennies, et puis ça dépend aussi de l'adoption. Hein. Est-ce que les gens en ont envie?
Ça va peut-être commencer par le paiement avec les crypto-monnaies.
Effectivement, en tout cas, ça représente une partie de ce secteur et de ce phénomène. On a beaucoup entendu parler des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Il y a aussi des entreprises privées qui s'y mettent. Alors, on a beaucoup parlé justement de l'initiative de Facebook. C'était il y a pile 2 ans. Facebook a à l'époque annoncé avec une vingtaine de partenaires, dont le français Iliad, qui est la maison mère de Free. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de monnaie numérique, une monnaie qui serait utilisée par les utilisateurs de Facebook, qui comptent aussi Messenger, WhatsApp et Instagram, et qui leur permettrait en fait de s'échanger de l'argent, de payer pour des produits. Je pense que t'as déjà utilisé Instagram, t'as vu qu'on pouvait acheter des choses en ligne, Facebook veut justement te permettre potentiellement, non pas d'utiliser l'euro ou le dollar, mais d'utiliser Diem, donc sa crypto-monnaie, sur sa plateforme.
On sait que la monnaie, c'est traditionnellement une chasse gardée de l'État. On l'a rappelé avec l'exemple du dollar et des États-Unis. Donc, les États, comment ils perçoivent ce début de révolution?
Ils le perçoivent assez mal. Et ça fait effectivement 2 ans depuis la première annonce de Facebook qu'il y a pas mal de réunions. Les États ont très vite expliqué à Facebook, ses partenaires, que ça n'était pas possible, tout bêtement, de créer une monnaie. Juste pour schématiser, Aujourd'hui, à peu près tous les secteurs sont touchés par un mouvement de privatisation. Il y a encore deux secteurs qui, entre guillemets, résistent. C'est tout ce qui est l'armée et la monnaie. Ça fait partie vraiment des attributs de l'État. Et donc, forcément, les États, voilà, en 2021, ne peuvent pas accepter que des entreprises privées, finalement, lancent des initiatives qui vont sur leur terrain. Et pour contrer ce mouvement, eh bien, on a vu pas mal de banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne, qui ont elles-mêmes en fait, lancer leur propre monnaie numérique.
Le gouvernement britannique a demandé à sa banque centrale, la Banque d'Angleterre, d'envisager le lancement d'une monnaie numérique. La Banque d'Angleterre étudie donc de près la question d'une devise, déjà surnommée Britcoin, qui coexisterait avec la livre sterling.
L'euro ou l'euro numérique n'est pas encore disponible. Il y a pour l'instant des pilotes, mais il y a des pays comme la Suède ou la e-krona, donc c'est la e-couronne, a commencé à être expérimenté. Il y a aussi en Chine, on parle beaucoup du yuan numérique. Les États-Unis veulent avancer sur le dollar numérique. Donc finalement, les États ne veulent pas des monnaies privées. Et en plus, ils lancent la leur pour contrer toute tentative.
L'intérêt d'un système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les États qui contrôlent les monnaies avec leur banque centrale, c'est qu'il y a des équivalences, il y a des étalons. Comment ça marcherait dans un monde où chacun peut faire sa monnaie, où il y a des fractions d'appartements, des bitcoins, des monnaies de Facebook, etc.
C'est vrai que le système qu'on connaît actuellement est plutôt réputé pour sa stabilité. Après, il ne faut pas oublier qu'on a entre guillemets la chance de vivre en Europe où le système financier est plutôt stable. Donc on ne connaît pas de fluctuations des monnaies, on ne connaît pas de déséquilibre financier. Mais il y a de nombreuses régions du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Je prends juste le cas du Venezuela, où la monnaie nationale s'est littéralement effondrée ces dernières années.
Ça, c'est des porte-monnaies qui sont faits avec des billets vénézuéliens parce que ces billets n'ont plus aucune valeur.
Combien j'ai là dans la main ?
Il y a quasiment 100 billets de 50 bolivars ici.
Et avec ça, je peux acheter quoi ?
Nada.
Comment c'est que nada ?
Porque no vale.
Là, je croyais que vous
il y a des pays qui ont déjà l'habitude de cette instabilité et finalement, eh bien, il va falloir leur trouver une sorte d'étalon. C'est-à-dire qu'on a eu une période l'étalon or qui permettait à toutes les monnaies d'être indexées sur l'or. Et puis, dans des régions comme l'Europe ou les États-Unis, eh bien, finalement, ça va être juste le remplacement d'un système par un autre ou plutôt la cohabitation de deux systèmes avec peut-être des monnaies traditionnelles, puis justement des monnaies un peu New Age.
Quel pourrait être le nouvel étalon si c'est plus l'or ? Ça pourrait être quoi ?
Alors ça, c'est un immense chantier. Certains disent que le nouvel étalon, ça doit être justement le Bitcoin, une espèce d'or numérique qui est en quantité limitée et donc qui permettrait d'indexer toutes les autres monnaies. Mais ça pourrait être également un or numérique créé par les banques centrales à l'échelle mondiale. On parle beaucoup de gouvernance planétaire. On peut imaginer que sous l'égide du FMI avec l'ONU, on crée une sorte d'étalon or numérique qui s'applique à toutes les monnaies et qui permettent de créer cette stabilité.
Depuis le début, tu nous expliques que la technologie permet ça, de créer un nouveau système de paiement complètement fractionné, décentralisé. Mais est-ce que techniquement, c'est si simple à mettre en place ?
Techniquement, ça n'est pas simple, mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était impensable. Enfin, il faut quand même se replacer dans le contexte des années 90-2000. Imaginer un tel système il y a 20 ans, c'était totalement impossible. Et on voit que la technologie, en général, dépasse
notre imagination.
La réalité, notre imagination. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir dans combien de temps justement on pourra peut-être payer avec des nouvelles monnaies, mais ça arrive très vite. Et voilà, on pourra justement aller boire un coup peut-être dans quelques années et payer avec ton appart ou mon piano.
On va aller boire un coup, on est bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que quand ce nouveau système numérique décentralisé sera là, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de monnaie, que la monnaie physique aura disparu ?
Alors non, et c'est ce qui est assez amusant d'observer à l'échelle de l'histoire, c'est que si on a finalement vu plein de nouveaux systèmes de paiement arriver, on n'en a jamais vu disparaître. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'a jamais eu autant de systèmes de paiement, qu'ils soient physiques ou numériques. Et on peut imaginer que dans les décennies et les siècles qui viennent, eh bien, on va avoir encore plus de nouvelles formes de monnaie de paiement.
Merci Raphaël, ton expertise est inestimable, ça n'a pas de prix, donc on ne pourra pas la fractionner.
Merci Xavier.
Raphaël Bloch, dont vous pouvez retrouver tous les articles, toutes les analyses sur le site internet de l'Express. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute sans dépenser un euro ou un morceau de chaise, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles, à laisser des commentaires ou à nous écrire à cette adresse laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.